en nous appuyant sur sa parole. Et nous l'avons évoqué et nous l'avons annoncé lors de notre week-end d'église, et surtout nous l'avons déjà commencé le mois dernier, et cela se continue au fil de cette année. Effectivement, nous avons choisi et nous avons proposé, nous avons tous proposé, surtout pour tous ceux qui ont trouvé le temps et ont la possibilité aussi de se retrouver, comme cette semaine, dans un groupe de maison, près de chez eux, je l'espère, pour parcourir l'Épître de Jacques ensemble pendant les 7 ou 8 rencontres qui vont jalonner cette année. Le sujet qui était présent était un sujet assez large dans le début de cet épître qui a été lu, partagé, je pense, dans chacun des groupes. Mais ce sur quoi je veux me concentrer avec vous ce matin, c'est quelque chose qui, un sujet qui ne nous laisse pas du tout indifférents. Parce que je crois, et d'ailleurs Jacques commence ainsi dans le passage, c'est qu'il nous concerne tous, non, vraiment tous. Il est question, alors je vais focaliser peut-être sur 2-3 choses, mais il évoque l'utilisation de notre parole. Et même si par hasard il y avait un muet parmi nous, je pense que aussi dans le langage des signes, alors je ne le maîtrise pas du tout, mais nous avons toute occasion d'exprimer des choses et même parfois sans parler. Notre corps, notre regard, tout ce que nous pouvons évoquer même sans commencer à prononcer un mot, déjà est parfois très parlant. Que ce soit dans la douceur, ou que ce soit même dans son opposé, la violence ou la rage. Autrement dit, chacun de nous peut se rappeler, peut-être, malheureusement même, des paroles qu'on a eues dites et que nous considérons aujourd'hui comme regrettables ou blessantes, ou pourquoi pas même mensongères ou empreintes de colère, ou encore des paroles qui ont été vaines, voire médisantes. Nous pouvons tous nous souvenir de choses que nous préférerions ne pas avoir dites ce jour-là. Et inversement, nous regrettons tous de ne pas avoir parfois su dire certaines choses, d'avoir su féliciter, d'avoir su remercier, d'avoir su encourager dans certains moments où il était peut-être important de le faire. Nos paroles, parfois, ne nous coûtent pas grand-chose. Et parfois, effectivement, nous avons oublié de les dire, de les faire, de les apporter, et nous n'avons pas réussi, ou nous n'avons pas voulu les exprimer dans ces moments-là. Aussi ce matin, à la suite de Jacques, j'aimerais que nous prenions le temps de méditer à cela, de réfléchir à la responsabilité qui nous est tous, vraiment tous, confiée, de l'utiliser plus que tout pour sa gloire, et en toutes circonstances. Mais avant tout, commençons déjà par lire ce passage qui sera pour nous source de méditation, et c'est en Jacques chapitre 1, les versets 19 à 27 que je vais prendre dans la traduction du Semeur. Donc je pense que le texte va s'afficher d'un instant à l'autre là, sur le mur, comme ça, si vous n'avez pas une Bible par hasard, vous pourrez quand même le suivre au fur et à mesure de la lecture. Donc Jacques chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre, et écoutons sa parole. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle est le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Parole du Seigneur. Ce texte est très riche, il y a énormément de choses que Jacques dit là et qui, peu après, va d'ailleurs prendre le temps de développer. Or, pardonnez-moi si peut-être je ne vais pas m'arrêter sur tout ce qu'il y dit, mais je vais essayer de tracer un chemin avec vous pour regarder à ce que Dieu nous adresse encore ce matin et qui peut-être, pour nous, dès aujourd'hui, sera source aussi d'une richesse et d'une demande aussi, d'une mise en pratique. Pourquoi pas presque immédiate. Dans notre cheminement avec le Créateur, nous venons tous à goûter et à découvrir sa justice. Car Dieu est justice. Et de reconnaître et de savoir que Dieu est justice est pour nous une source de consolation. Et sa justice, c'est une justice aussi qui pousse notre regard sur ce monde à être renouvelé, à en percevoir ses aspérités, ses défauts, ses ignominies même. Notre regard, quelque part, s'aguerrit, s'affine. Mais sa parole a pour but premier de nous inviter à porter un regard plus juste, plus éclairé, plus lucide sur notre personne. D'abord, sur notre nature profonde, celle d'une personne malheureusement, mais irrémédiablement corrompue par le mal, à même de faire des erreurs quand bien même nous désirions faire le bien ou rétablir un semblant de justice autour de nous. Oui, je le crains, nous sommes malheureusement tous faits de ce bois-là. Et Jacques le sait. Jacques, lui, l'un des bergers, l'un des pasteurs de la grande église et de la première des églises, celle de Jérusalem, le sait. C'est pourquoi il initie son propos par cette formule qui nous englobe tous. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Nous sommes, ou nous demeurons, parfois encore incapable d'une parfaite maîtrise, notamment quand nous voulons ou nous espérons réclamer justice à travers nos mots, à travers nos paroles, ou que nous faisons entendre notre colère, une colère qui nous paraît pourtant si juste et fondée. Il est d'ailleurs bon de voir que la Bible s'y intéresse régulièrement à ce fait-là. Elle le fait même abondamment. Et notamment dans le plus grand des livres qui soit, celui qui regorge d'une richesse à ce propos. Je pense au psautier, au livre des psaumes, car le livre des psaumes en parle régulièrement. Parce que dans le livre des psaumes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors peut-être vous êtes de ceux qui n'aiment pas trop à regarder à ces passages-là, à certains de ces psaumes. Il y a ce qu'on appelle, alors vous n'êtes pas obligé de garder le nom, des psaumes d'imprécation. C'est un gros mot, hein, un grand mot, qu'on oublie, qu'on ne comprend pas toujours très bien. Qu'est-ce que c'est que cela? Dans le psaume, ou dans les psaumes, il y a des psaumes qui crient le désir de justice à Dieu. Ces psaumes que plusieurs, d'ailleurs, parmi nous, peut-être n'aiment pas encore lire aujourd'hui, en raison de la violence des propos qui sont adressés à Dieu, qui expriment ce désir brûlant de justice. Mais ces psaumes, et c'est bien pour ça qu'ils sont présents dans la Bible, et notamment dans le recueil des psaumes. Ces psaumes n'en oublient jamais de remettre toute justice à Dieu. Jamais le psalmiste ne succombe au désir, lui, de se faire justice, de faire entendre sa colère à ceux à qui il aimerait l'adresser. il la remet uniquement dans les mains de Dieu. Je vous en donne un exemple, il y en a beaucoup de ces psaumes-là. Mais prenons juste un verset dans le psaume 58, l'une de ces paroles imprécatoires, qui dit ceci, et la parole est violente. Je ne sais pas si un jour, dans votre colère, vous avez dit cela à votre voisin, votre conjoint, à vos enfants, je l'espère pas, parce que ça fait mal. Mais écoutez, ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, Éternel, arrache les crocs de ses lions. Qui oserait prononcer de telles paroles aujourd'hui directement à une personne ? Brise-leur les dents dans la bouche. Parfois, il faut s'appeler Mike Tyson pour y arriver du premier coup, soit il faut user de choses encore plus désastreuses. L'image est très violente, mais elle n'est pas là pour s'accomplir. Ces paroles dures, ces imprécations, pour reprendre encore une fois le terme, sont révélatrices de l'intimité permise entre Dieu et nous. Une intimité qui nous offre l'opportunité de nous épancher avec lui sans retenue. C'est bien pour ça qu'il y a ces psaumes, qu'ils existent dans la Bible. S'ils n'y étaient pas, je pense que nous serions sans ressources. Comment ferions-nous alors que nous sommes dans cette souffrance, dans cette douleur, et que nous avons cette soif de justice? N'est-ce pas une grâce de pouvoir tout dire à Dieu? Je pense, oui, nous pouvons nous tourner vers lui pour lui crier notre souffrance, notre misère, notre douleur sans nom face à ces choses, à ces injustices qui parfois vont jusqu'à nous horrifier. Et même, à l'image peut-être de ce que nous avons entendu, et même si nos propres mots seraient peut-être trop forts, vous n'allez pas choquer Dieu. Et je pense que ces psaumes-là sont là aussi pour nous le rappeler. Si vos paroles viennent à dépasser les bornes quand vous vous adressez à lui, quand vous avez cette soif de justice, que vous voulez la crier, fort heureusement, lui sera faire le tri. Il sera faire le tri et n'exaucera pas tout ce que vous avez pu dire dans votre soif de justice. Il n'exaucera pas toute votre prière par rapport à la violence des choses que vous avez à cœur de lui remettre. Mais ces psaumes d'imprécation qui nous enseignent encore là aussi ce matin, ces paroles-là manifestent aussi notre besoin de cheminer avec Dieu. Le psalmiste, quand il s'exprime ainsi, reconnaît ne pas pouvoir bénir ceux qui le maudissent. Il en est incapable quand il le dit. Aussi, il ne peut que regarder à Dieu et s'exprimer directement à lui. Tout lui remettre et lui faire dans l'intime confiance. Au psalmiste, comme pour nous, il faut du temps et surtout l'intervention de la grâce de Dieu. Dans la justice attendue, mais aussi dans le cheminement que je dois avoir, moi, petit à petit, vis-à-vis de ce que je vois, vis-à-vis de la manière dont moi-même je dois pouvoir peut-être un jour aller voir un tel ou un tel pour aller essayer de le comprendre, de le pardonner. Ces psaumes si particuliers et ô combien dérangeants, car ce n'était pas la pire des paroles que j'ai choisies, il y en a des bien plus violentes. Là, c'est censure pour ce matin, il y a quelques enfants parmi nous, et peut-être des âmes sensibles. Mais ces psaumes si particuliers et dérangeants sont pour nous encore aujourd'hui, une invitation à apprendre à nous en remettre pleinement à lui et uniquement à lui. Quand notre colère commence à jaillir dans le cœur. Et il n'y a pas que d'ailleurs le psautier qui nous fait entendre cela. Comme je l'ai dit, la Bible regorge de cette interpellation, de cette invitation que Jacques reprend lui aussi à son compte. Prenons un autre serviteur de Dieu, Paul. Paul le fait entendre aussi. En d'autres circonstances, avec d'autres personnes, non plus des Hébreux, ce qui était le cas de Jacques, il se trouvait à Jérusalem, mais avec des païens. Des païens dans le contexte de Rome, d'une Rome qui commençait déjà depuis un moment à persécuter. Oui, Jacques leur dit ceci, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donc remettons la vengeance à Dieu, et je continue ce que Paul dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est complètement dingue, hein, ce que Paul demande. Mais c'est ce que j'entends chez Paul, c'est exactement la même chose que Jacques nous dit. Deux styles très différents, deux contextes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est exactement la même exhortation, globalement. Entendez-le, entendez ces paroles que Paul, là aussi, nous donne. Et je me permets une petite phrase, une petite exhortation, parce que parfois on trouve la petite exception, on sait qu'il y a eu un événement qui nous permet de dire « Oui, mais quand même, on peut se mettre en colère parfois. » Non. Croyez-le moi, il n'existe aucune sainte colère en l'homme. Ça n'existe pas. Jamais la Bible ne nous dit que l'homme peut éprouver une sainte colère. Certes, le Christ, lui, s'est mis en colère. Mais d'une, sa colère ne s'est pas dirigée contre des hommes directement, mais vis-à-vis d'une pratique qui avait lieu dans le temple. Et pour un instant, il l'a fait capoter, parce que dès le lendemain ou dans l'heure qui a suivi, je suis sûr que tout avait été rétabli. Mais n'en oublions pas que quand nous cherchons excuses en disant « Oui, mais Jésus a eu cette sainte colère », donc si nous pouvons imaginer nous aussi reproduire quelque chose de similaire, c'est que nous y avons le droit. Rappelez-vous ce que nous a dit Paul, entendez ce que nous dit Jacques. Jésus n'était pas nous, il s'était fait homme, mais avant même d'être homme, il a toujours été Dieu. Sa colère ne peut pas être notre colère. Donc, et je le répète, il n'existe aucune sainte colère en l'homme. Et pour moi, c'est une grande claque. Pendant encore un temps, pas, ça fait un petit moment, mais je m'appuyais sur ce passage-là en me disant « Mais c'est quand même possible, je dois pouvoir y parvenir, j'ai le droit aussi de me mettre en colère vis-à-vis des autres. » Et non, nous en sommes honnêtement totalement incapables. Nous ne pouvons pas entrer dans une sainte colère parce que nous ne sommes pas saints comme Jésus est saint. Nous sommes les saints parce que nous sommes ses enfants, mais pas au sens où Jésus lui-même était pleinement saint. Un jour cela viendra, mais là il n'y aura même plus nécessité d'être en colère. Donc jamais, jamais nous ne connaîtrons une sainte colère en tant qu'homme. Et c'est bien pour cela que Paul, lui aussi, nous exhorte ainsi, comme Jacques, à remettre notre désir, notre besoin de justice à Dieu et à Dieu seul. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Ce serait tellement plus facile de parfois pouvoir l'exprimer. C'est une soupape hein, pour nous, la colère. Hein. Vous avez déjà tous vu une cocotte minute. Quand voilà, la cuisson est à bonne température et pression, bah, voilà, la soupape laisse la pression sortir. Bah, pour nous, la colère, c'est ça. On n'en peut plus et on laisse tout péter. Et puis voilà. Et ça peut nous arriver très facilement. Mais je reviens sur la question, pourquoi nous ne pouvons que remettre notre colère à Dieu et à Dieu seul? Tout simplement, il faut l'avouer, nous avons quand même des stratégies. Nous sommes capables de nous persuader de bien agir, notamment quand nous recherchons la justice. Nous sommes capables, oui, de nous irriter pour une bonne cause et même de céder à la colère pour la justice. J'ai pas envie de m'éterniser sur cela, mais j'ai grandi dans une petite culture qui d'ailleurs demeure encore très forte, pas chez moi, hein, je veux dire là d'où je viens, ou le fait de se sentir méprisé, un petit peu trop à l'ouest, bon bref, pour plein de choses, d'être inconsidéré justifie tous nos colères. Et cette petite peuplade se fait très souvent entendre dans le contexte national. Il y a comme ça des manières d'être profondément ancrées, mais je vais y revenir. Mais bien trop souvent, honnêtement, nous ne cherchons qu'à nous convaincre nous-mêmes quand nous voulons clamer notre justice. quand nous cherchons la bonne raison qui nous permet de nous mettre en colère. Nous nous faisons d'ailleurs, à ce moment-là, et c'est ça le problème, plus sourds à l'exhortation divine que nous venons d'entendre, que ce soit chez Paul, chez Jacques, ou même dans ce que veulent dire aussi ces psaumes. Car quand nous entrons en colère, nous cédons à la tentation, pleinement. L'épreuve de l'injustice est là. Et de céder à la colère, c'est de vraiment entrer en tentation, tout simplement. Et quand Jacques étire tout cela, certes, ce sont plein de choses qu'il va redévelopper, il y a un lien très fort. Oui, quand nous entrons en colère, nous nous faisons sourds à l'exhortation divine. Nous entrons en tentation et nous allons alors exprimer notre rage, même si peut-être elle nous semble maîtrisée. Parce que pour certains, voilà, on peut être dans une colère, mais ça va. On arrive à la contenir un minimum. Mais pour autant, rend-elle gloire à Dieu? Non. J'espère ne pas vous apprendre une grande nouvelle ce matin, mais je crois que ce matin, j'ai réussi à me mettre en colère encore une fois, malheureusement, après mes enfants, qui en avaient mis partout dans la chambre. Je n'arrivais même pas à rentrer. L'instant d'avant, l'un de mes enfants est venu me voir en disant « Je me suis fait mal au pied, j'ai marché. » Je lui ai dit « Oui, mais je t'ai demandé de ranger. » Et après maintes interpellations, alors c'est vrai que là en ce moment, comme je suis fatigué, je pars un peu plus au quart de tour, malheureusement. Mais j'ai pris leurs jouets, j'ai jeté deux, trois choses dans la caisse et je leur ai dit « Maintenant vous rangez. » C'était déjà de trop, vraiment. Alors je suis allé après m'excuser auprès de l'un des enfants vers qui je m'adressais, parce que je n'avais pas à le faire ainsi. Même s'il était très très sourd à ce moment-là. Hein. Mais voyez, là, je vous montre à quel point j'entre dans ce défaut. Parce qu'il est sourd, j'ai le droit de le dire plus fort. Donc, on passe par le mode colère, ça marche mieux a priori. Eh ben non. Eh ben non. Et d'ailleurs, j'y viens parce que j'ouvrais un peu sur cette anecdote très récente. Cet état de fait de nous rendre sourds à l'exhortation divine. Quand nous avons tous été enfants, nous l'avons perçu un jour aussi chez nos parents. Nos parents, dans leur volonté de nous éduquer, eux aussi, un jour, très certainement, ont cédé plus ou moins régulièrement à la colère. Je regarde vers eux comme ça, on n'est pas obligé de se sentir tout de suite concerné, mais après on peut regarder à nous aussi, que nous soyons parents ou nous ne sommes pas, peu importe. Mais si la volonté, en tant que parents, tous nos parents, de nous élever, de nous apprendre à grandir en sagesse, est au cœur de leur volonté. Il n'en demeure pas moins que tout parent, quand il le fait ainsi, se laisse happer par ses propres débordements, en raison d'une fatigue, d'excès, de tout ce qu'il en est, et de se laisser après aller à la colère pour vouloir, or soit rétablir son autorité, ou une parole face à eux, face à ses plus jeunes, qui d'ailleurs nous ressemblent beaucoup. Et apprennent à nous imiter en cela aussi. Et malheureusement, quand nous entrons en colère, notamment vis-à-vis d'un plus jeune, ce que nous leur enseignons premièrement à ce moment-là, sans nous en rendre compte, c'est surtout l'usage de la violence par la colère. N'est-ce pas là, d'ailleurs, l'une des problématiques de la colère ? De ces paroles qui vont trop loin, parce que je prends la colère, mais tout à l'heure j'ai ouvert un éventail, il y a mes 10 ans, et toutes ces autres choses, de tous ces usages de la parole qui font mal, qui blessent, qui détruisent, qui quelque part sont même source d'enseignement du péché. N'est-ce pas là l'interpellation de ce proverbe, un proverbe célèbre, parce que nous avons un frère qui de temps en temps, parce qu'il l'aime beaucoup, n'hésite pas à nous le rappeler de ci, de là, quand il est en chair. Je vais le commencer, je suis sûr que vous allez savoir le finir, alors, avec la référence pour ceux qui vraiment le connaissent bien, mais « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » La référence ? Voilà, Proverbe 15.1. C'est vrai qu'on l'a partagé peut-être un peu cette semaine. Jacques, dans son épître, alors qu'il vient de l'ouvrir, on est toujours dans le premier chapitre, c'est vraiment une longue introduction, nous invite à quelque chose. Il nous invite à nous dépouiller. C'est un terme fort qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui hein, dans le langage courant. Il nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous souille et reste en nous, de tout ce qui continue de nous pousser aussi à tous ces excès, à tous ces débordements, à tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, même si nous pensons faire œuvre de justice dans ces moments-là. De tout ce qui d'ailleurs parfois, malheureusement, va jusqu'à nous pousser à entrer en violence, à la médisance, au mensonge, ou à que sais-je encore, mais qui n'est que œuvre de destruction autour de nous. Oui, Jacques a peut-être une parole facile. Jacques nous invite à nous dépouiller de tout cela. Mais qu'il est dur de parfois pouvoir s'en débarrasser. Car ces choses, toutes ces souillures, terme très vaste, hein, ces choses ont pris racine en nous parfois depuis bien trop longtemps. Tout à l'heure, j'ai pris une petite anecdote d'une peuplade. Je n'ai pas donné le nom, on s'en fiche, parce qu'il y en a certainement d'autres. Hein. Mais quand vous naissez avec cela, que soit dans votre entourage familial, soit peu importe d'ailleurs ce qui vous a entouré, vous avez été baigné aussi de cela. Vous enracinez dans ces choses-là. Et ce n'est pas qu'une question de caractère propre, de nature propre. Il y a cela, mais il y a aussi toutes ces autres choses. Nous héritons de ces souillures, car elles nous ont environnés. Et peut-être d'ailleurs, elles continuent de nous environner. Et c'est là où nous voyons la difficulté du chantier. Nos facilités à nous emporter, à nous laisser à la colère, puisent leurs racines dans nos histoires personnelles, familiales, culturelles, ou je ne sais quoi. Elles puisent parfois aussi dans les écueils de la vie et non pas seulement dans notre propre caractère, et même si c'est cela aussi. Et en raison de tout ce que cela peut être, de tout cela d'où viennent ces racines, de leurs origines, nous pouvons y voir malheureusement une fatalité. Mais je suis comme ça. Comment je peux changer? J'ai toujours été comme ça. Voilà. Je ne parle pas de moi là, je prends une parole que l'on entendra très souvent, qui sera presque un réflexe d'autodéfense. Mais nous le voyons comme une fatalité, tellement c'est enraciné en nous parfois. Une impossibilité même à espérer mieux, pour le dire autrement. Et je trouve cela dramatique. Nous ne voulons pas y croire, tant cela semble viscéralement attaché à nous. Et de l'enlever va nous ôter quelque chose de vital presque. Tu ne peux pas espérer que je change, c'est moi. Ça semble être une tragédie. C'est pourquoi, et je reviens à Jacques nous encourage à accueillir plus encore la grâce de Dieu par sa parole agissante. Cette parole qui ne demeure pas sans effet si toutefois nous acceptons de renoncer à nos propres réflexes et de retourner à nos tentations premières. C'est bien pour ça que Jacques va parler à un moment de, comment il le dit déjà, alors j'essaie de retrouver, oui, il dit, débarrassez-vous donc. Il nous invite à nous dépouiller, donc il pointe vers notre responsabilité. Mais juste à la suite de cela, il est question de la parole plantée. Avouons-le et soyons honnêtes, oui, il nous est impossible d'enlever ces racines-là. Nous n'avons pas, nous, l'outil adéquat pour le faire de nous-mêmes. Mais nous avons la responsabilité de le demander, de l'espérer et de vouloir avancer là-dessus. Par contre, en raison de la parole plantée de Dieu, de cette parole puissante qui peut agir, Dieu, lui, va sortir le bon sécateur ou la binette ou je ne sais quel outil nécessaire, mais il va y parvenir. Car sa parole agit en profondeur. Elle va pouvoir transformer notre nature, elle va pouvoir quelque part changer tant de choses en nous. Et nous pouvons espérer voir ces transformations aujourd'hui, et non pas de dire quand il sera revenu seulement. Les choses peuvent commencer aujourd'hui. Alors si notre réflexe est de se dire « mais je suis comme ça », quelque part, c'est que vous n'espérez pas en Dieu suffisamment. Ou que vous en oubliez d'espérer en Dieu, de croire qu'il est plus puissant que vous-même. Ou alors, c'est vraiment, vous êtes très orgueilleux. Non, je suis plus fort que Dieu. Il ne peut pas me transformer. Regardez-moi. Je lui résisterai. On n'est pas un petit village de Gaulois, hein. Ça n'existe pas, ça. Astérix n'a jamais existé, même si les Gaulois ont été très pénibles pour les Romains, il fut un temps. Oui, sa parole peut faire des miracles, et c'est peut-être les plus grands miracles qui peuvent s'opérer en nous, c'est cela. Nous transformer là où des racines profondes nous amènent encore aujourd'hui, soit être menteur, médisant, ou je ne sais quoi, ou porté vers la colère, peu importe ces différents mots, mais de tout ce qui nous fait du mal et fait du mal autour de nous. Dieu, dans sa présence, si toutefois, bien sûr, nous voulons lui accorder la place qu'il demande, veut nous transformer. Et c'est bien pour ça que, vers la fin du verset 21, il est question de que Dieu a le pouvoir de nous sauver. C'est ainsi que c'est très souvent traduit dans le texte français, sachant que, si vous l'avez déjà entendu ici et d'ailleurs, le verbe qui ici est dit « sauver » dans le texte original peut signifier « guérir » ou « sauver » suivant le contexte. Je pense là, il prend un peu les deux sens, même si c'est le salut qui est mis en avant, hein, et il faut le garder ainsi. Mais ce salut aussi consiste à nous guérir de nos souillures. L'œuvre de Dieu, de cette parole qu'il a plantée en nous, ce n'est pas juste pour dire « voilà, tu as ta place, tu as ton ticket garanti pour être auprès de lui un jour ». Le salut, c'est ce qui doit se passer en nous. C'est cette œuvre de transformation. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir la certitude de ce salut, il se voit à travers cela, à travers l'œuvre de Dieu qui s'opère en nous. Dieu veut nous guérir de nos souillures, de toutes ces racines qui, quelque part, vont encore puiser à la source du mal pour nous rendre parfois encore mauvais, qui font de nous, malheureusement, parfois des piètres témoins de son amour. Oui, Dieu désire nous sauver en déliant ses racines, en les arrachant, en les jetant au loin, au feu, pour que plus jamais elles ne continuent de nous abreuver de ces choses qui nous font mal. Or, certes, elles sont profondes, nous en sommes incapables, mais nous avons la responsabilité de lui demander encore aujourd'hui, peut-être, qu'il puisse nous aider à nous en débarrasser. Et c'est en cela que nous avons besoin de délivrance. Il ne s'agit pas d'esprit de je ne sais quoi, etc., comme on entend parfois dans certains milieux d'église, qui pour moi n'est pas fondé bibliquement. C'est cette logique-là qu'il faut comprendre. La délivrance, ce sont ces mots en nous. Ce ne sont pas des choses surnaturelles qui agissent en nous. Trop souvent, ce sont ces choses-là, plus encore. Et je m'adresse à vous avec cette première exhortation, mais si aujourd'hui, parmi nous, nous savons que notre cœur demeure étouffé par ces mauvaises racines, par toutes ces choses ancrées en nous qui nous font mal encore réagir vis-à-vis de mon voisin, de ma voisine, de ma famille, de mes enfants, de mes parents, de mon frère ou de ma sœur dans l'église, de mon conseil, de mon pasteur, de mon groupe de maison, de je ne sais qui d'ailleurs. Reviens à lui, reviens à Dieu, afin qu'il œuvre dans sa patience avec toi. Confie-lui les moindres recoins de ta personne, pour qu'il y applique le baume de son esprit et te guérisse de ces maux qui te rongent. Car il est la délivrance. Il a le pouvoir, comme le dit Jacques, et là je vais user des deux termes, de guérir, c'est-à-dire de nous sauver. Et nous en avons tous besoin, j'en suis sûr. Moi je le sais, je me suis confié à vous, par rapport encore à un de mes échecs de ce matin. Et je crois que vous me ressemblez aussi, a priori. Mais continuons encore à cheminer avec Jacques. Dans la suite, et en allant vers la fin de ce passage, Jacques fait quelque chose qui peut parfois nous paraître étonnant, surtout quand nous regardons trop aux notes de nos Bibles, aux découpages, aux plans qui peuvent être proposés, où il y a ici, il parle de ça, là, il parle de ça, et puis on a l'impression que c'est des choses séparées. Donc Jacques écrit une lettre. Tout cela, quelque part, aussi est lié. Jacques relie son propos sur la colère à l'obéissance à la parole. Ou pour le dire autrement, parce qu'il va user de l'homme ceci, l'homme cela, avec des cas de figure différents qui s'opposent. Ou pour le dire autrement, Jacques, par rapport à ce qu'il vient de dire là, nous exhorte à une chose, en un mot, à être conséquent. Ce n'est pas un mot qu'on sort tous les jours, pourtant il est assez simple, mais je le redis autrement. Il nous exhorte à ce que notre vie de tous les jours suive la volonté divine et non pas de nous contenter d'être des chrétiens du dimanche. Parce qu'à un moment, il parle de cet homme qui se regarde dans son miroir, voit qui il est, puis une fois fait, il part et puis il en oublie ce qu'il est. Drôle d'image, hein, qui ne nous parle pas beaucoup. Dans le petit groupe de maison dans lequel on était, on a échangé parce que la question s'est posée. Il ne faut pas y faire entrer des concepts philosophiques sur l'être, l'identité personnelle, etc., etc. Il n'en est même pas question. Ici, l'idée même, dans ce que Jacques dit, il s'agit plus de ce qu'on peut appeler, nous, le chrétien du dimanche. Celui qui se regarde et qui, pendant un instant, voit qui il est vraiment, et qui, après, continue sa journée en oubliant cela, c'est simplement le peu de temps parfois que nous avons à regarder à Dieu et d'essayer de le suivre. Et puis après, le reste de la semaine, on l'oublie. À quoi bon ? Jacques nous invite à être attentifs à cela, à être conséquents. Car quand Jacques nous parle de cet homme-là, de celui qui se regarde dans un miroir, comme je l'ai dit, il pointe avec force sur cette faiblesse que nous pouvons connaître. Car oui, il peut nous arriver, peut-être, de venir dimanche après dimanche pour louer Dieu, pour manifester des signes, de notre enthousiasme pour notre Sauveur, mais une fois ce temps passé, de ne plus trop en tenir compte, préférant retourner à nos réflexes habituels, comme peut-être la médisance au bureau. Je me retrouve à côté de mes collègues qui sont toujours à pss, 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 pss. Et je rentre dans la discussion et pss, 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 sur le chef, sur le responsable qui nous fait toujours des misères, etc. Et pss, 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 ben, bref, j'ai vécu ça autrefois quand je bossais dans le séculier. On arrive dans le bureau et puis il y a les collègues et puis la chef sort du bureau et pss, 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 pss. Puis à un moment, ben, pss, 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 tu rentres dans le truc, quoi. Et qu'est-ce que t'as fait de ta journée ? Ben, t'as dit du mal de l'autre, quoi. Plutôt que d'aller parler à ton chef en disant « Tu nous demandes un truc, mais franchement, tu crois que c'est raisonnable ? Regarde. » Bon, bref, c'est tellement plus simple de faire « Pi, 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 pi. » Je sais pas, hein, si vous le faites comme ça, vous. Bref, je l'ai vécu et j'en tire aucune gloire, mais vraiment pas. Oui. Il peut nous arriver, comme je l'ai dit, de venir dimanche après dimanche pour louer Dieu, mais une fois ce temps passé, de ne plus du tout en tenir compte, de préférer retourner à ses réflexes habituels et de retourner à nos mauvais usages, de repuiser dans ses racines, dans ses souillures qui sont encore parfois trop présentes en nous. Aussi, c'est bien pour cela que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jacques nous exhorte à plus de conséquences, c'est-à-dire à vivre intensément l'Évangile pour qu'il se transforme dans le moindre de nos actes, comme de nos paroles, notamment envers l'autre. Plutôt que de réciter et chanter des psaumes ou autres versets tranquillement dans sa voiture. Parce qu'il peut être bien beau de se mettre... Je ne sais pas ce que vous aimez écouter comme musique chrétienne dans votre voiture, pour ceux qui le font. Hein. Chacun ses habitudes. Mais alors, s'il y en a un qui vous klaxonne, vous coupe la route, et puis de balancer un joli truc, personne ne vous entendra. Hein. Peut-être qu'ils vont voir le signe, ils se disent « Ah, lui, il m'a râlé dessus. À quoi bon ?» Alors, peut-être qu'il a été dangereux. Je suis très tenté, hein, depuis que je commence à vivre dans cette région-là. Je tends à vouloir aussi entrer en colère vis-à-vis des mauvais conducteurs. Et ils sont légion dans le coin. Il y en a beaucoup. Ça a le don de m'énerver aussi. Mais si vous êtes dans votre voiture à louer le Seigneur et que un dangereux individu vous fait je ne sais quoi en espérant que ce n'était pas vous, quelle serait la meilleure des choses à faire là ? Seigneur ? Vois comment cet individu est dangereux. Peut-être que tout à l'heure, il va finir dans le fossé. Protège-le. Invite-le à être plus prudent. Plutôt que... Enfin, là, c'est pas pipi, mais les jolis mots fleuris, vous voyez. Enfin, je sais pas. Hein. Vous avez certainement votre petite expression qui fuse, bien pointée, etc. On l'en a. Hein. Je suis sûr qu'on en a tous une. Hein. Qui n'a pas essayé ? Et en plus, comme je l'ai dit, là, vous êtes seul dans votre voiture, comme beaucoup de Parisiens ou de la région parisienne. Personne ne le saura que vous avez balancé ce truc-là. Un peu plus loin, et je reprends le fil de cette méditation sur ce texte de Jacques. Plus loin, au verset 26, donc vers la fin, Jacques va même jusqu'à évoquer le sujet sensible, il me semble en tout cas, de nos querelles, de celles qui surgissent dans nos communautés. Puisqu'il parlait de l'homme qui se croit être religieux. Là, ça nous vise directement. De toute façon, il s'adresse à une église. Mais là, il nous vise peut-être dans nos plus grands des défauts et dans les mâles qui sont les plus difficiles et qui font le plus de tort aux églises. J'y reviens et je m'explique. Quand Jacques évoque ce sujet sensible de nos querelles, de celles qui surgissent dans nos communautés, il l'évoque car elles sont le témoignage indiscutable de nos inconséquences, là encore. Ou pour le dire autrement, si ça peut vous parler là, de notre immaturité dans la foi. Alors que nous nous pensons sages, comme le dit Jacques, que nous nous croyons être religieux. Car c'est très orgueilleux, hein. Enfin, quand il le dit ainsi, il pointe vers l'orgueil de ses frères et sœurs à l'époque, qui nous pointent vers nous aussi. Car, soyons honnêtes, malheureusement j'ai connu quelques églises, et de ces églises-là, j'en ai vu beaucoup qui ont connu ce genre de soucis. Combien d'églises, aujourd'hui, comme hier et comme demain, trop certainement, souffrent ou ont souffert, comme celle-ci d'ailleurs, de ces élans, d'une soi-disant justice basée sur la Bible, de ces croisades ravageuses, qui n'ont fait d'ailleurs qu'une chose, le jeu de l'ennemi. C'est tout. Très souvent, le réflexe trop humain d'un côté comme de l'autre. Alors, il commence d'un côté, mais il se poursuit de l'autre. Et tout cela se nourrit et continue. Et de se croire plus droit, plus juste que l'autre, et le seul qui, dans ce temps de pagaille, et de crise, de colère, de tout ce qu'on veut, de propos injustes, médisants, qui ne reconnaît plus l'autre comme un frère ou une sœur, il y en a un qui s'en réjouit. Et ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi, car il a su là raviver les quelques vieilles racines qui s'étaient bien pourries, mais qui continuent de vous abreuver, enfin, qui continuent de nous abreuver, pardonnez-moi, je m'y associe. On en est tous capables si on n'est pas prudent. Et même dans ces moments-là, je vais prendre une expression que je n'aime pas beaucoup, il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait ajouter, mais dans ces moments-là, quand on en vient dans ces temps de crise, et notamment dans les églises, mais ça peut aussi se voir dans une famille, au sein d'un couple, hein, quand on est très proche surtout, elles sont d'autant plus violentes, dans ces moments-là, on va, pour certains qui se mettent un peu comme les grands croisés, ils sortent leurs boucliers, leurs bannières, et puis ils disent « Moi, j'ai la justice pour bannière, et puis suivez-moi, car j'ai raison. » On va même jusqu'à se vanter d'être droit dans ses bottes. Ouf. Pourquoi je m'en prends à cette expression-là ? Être droit dans ses bottes, c'est typiquement tout ce que Jacques dénonce ici. L'expression, hein. C'est pour moi l'expression typique qui revient lors de tensions entre personnes, y compris même au sein d'une fraternité en Christ. Car vers quoi pointe Jacques quand il dit que notre colère n'a rien de justifiable ? Comme Paul d'ailleurs, hein. C'est que quand on ose dire « je suis droit dans mes bottes » pour ceci, pour cela ou face à cela, c'est que nous nous faisons très orgueilleux. Nous croyons être parfaitement justes, que nous avons une pleine connaissance de la situation, de tout ce qui se passe là, de ce qui se passe chez l'autre ou dans l'adversaire, et donc ma position est parfaitement juste. Parce qu'être droit dans ses bottes, c'est quand même assez carré, hein, voire franchement. Alors, désolé si vous êtes peut-être à user de cette expression, je l'ai utilisée certainement, même si je l'ai oubliée. Mais la grande problématique à propos de nos volontés de faire justice et d'aller jusqu'à la colère ou de chercher même la crise pour essayer de résoudre ce besoin de justice, c'est que nous nous faisons trop orgueilleux, bien trop orgueilleux. Car en gros, Jacques nous fait entendre ceci, où il nous pose presque la question, même pas directement, mais qui peut se prétendre droit ? Qui peut se prétendre pleinement et parfaitement juste ? Prenons une situation historique. N'était-ce pas là l'attitude? Alors, ça va être un peu fort et je vais vous secouer, mais il y en a aussi qui étaient vraiment droits dans leurs bottes ce jour-là. Il n'y avait peut-être pas plus droit qu'eux dans leurs bottes. L'attitude de ceux qui ont mis à mort le Christ était de ceux-là aussi. Ils étaient droits dans leurs bottes ce jour-là. Au soir, ils l'ont convoqué, où ils ont fait ce procès qui était surtout un simulacre de procès, mais ils étaient droits dans leurs bottes. Ils en étaient pleinement convaincus, honnêtement. Ils l'ont, rappelez-vous, molesté, craché si vous préférez. Ils ont été chercher des faux témoins, ils l'ont tapé, etc., etc. Mais ils étaient pleinement droits dans leurs bottes. Il n'y avait pas mieux qu'eux. Parce qu'ils voulaient faire justice, ils voulaient honorer Dieu. Comment tu peux dire cela? Tu blasphèmes. Boum, le couperet est tombé, il était condamné à mort pour eux, c'en était fini. Après, ils ont essayé de gruger et de faire passer la pilule à l'autorité romaine en trouvant un autre prétexte, parce que ça ne pouvait pas marcher. Mais ils étaient pleinement droits dans leurs bottes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué leur Dieu. Oui, il nous faut abandonner ces logiques-là. Car tout le propos de Jacques, comme de Paul, comme de la Bible, c'est que quand nous en sommes là pour essayer de faire valoir une certaine justice, et quand nous usons de ces chemins, surtout, pour faire justice, nous nous trompons. Nous sommes, comme le dit Jacques, nous illusionnons. Pleinement. Ce sont des réflexes si peu empreints d'une véritable justice, car nous ne la détenons pas. Et je vous l'avoue, une justice parfaite, nous ne la détiendrons jamais. Je pose la question aux juristes, mais la justice parfaite selon Dieu, nous ne l'aurons jamais nous-mêmes. Parce que l'invitation que Dieu nous fait entendre, c'est de lui la remettre. Nous manquons de sagesse. Nous manquerons toujours de la sagesse suffisante pour faire une pleine et satisfaisante justice selon Dieu. Car seul lui veut l'appliquer et nous invite à lui faire confiance, à lui la remettre. Elle ne doit reposer que dans la main de Dieu. Et si nous en avons soif, et cela n'est pas une mauvaise chose, les psaumes sont là pour nous le rappeler, alors tournons-nous vers lui, car le Seigneur nous a enseigné lui-même ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Non pas par ce que nous allons faire, mais par Dieu. Dieu va nous rassasier de sa justice. Et avoir faim et soif de justice est synonyme de cette attitude qui s'en remet à Dieu pleinement plutôt que de vouloir par orgueil. Car c'est de l'orgueil et seulement de l'orgueil quand nous nous mettons en colère. Nous voulons prendre à Dieu ce que lui seul veut faire. Quand je me mets en colère, je suis en train de dire « Je vais gérer à ta place parce que franchement, c'est maintenant qu'il fallait le faire et tu n'étais pas là. » Ou tu n'as pas compris, donc moi je vais le faire parce que tu ne sais pas le faire comme il le faut. J'exagère, mais quand nous en venons jusqu'à là, nous nous faisons orgueilleux. Nous prenons la place de Dieu que lui seul veut occuper. Et c'est là le problème. C'est pour cela, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'existera jamais en l'homme une sainte colère. Désolé, je suis un peu à me répéter, mais je vous y encourage, et moi-même aussi ce matin encore. Oui, je vous ai lu une première béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais rappelez-vous qu'elle en précède une autre, qui, elle, se conjugue avec celle que nous avons entendue. Cette autre qui dit « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils ». Et on peut rajouter ses filles, bien entendu. Car ces béatitudes sont l'image de ce que doit être tout disciple du Seigneur, le chemin spirituel où Dieu veut nous voir avancer, vers lequel il veut nous transformer. Que ces paroles puissent résonner encore en nous, nous montrer encore ce que Dieu veut opérer en nous. Si nous avons soif et faim de justice, remettons-nous à lui. Car il va nous rassasier de sa justice. Si nous avons le désir d'œuvrer pour lui, œuvrons à la paix, même quand nous sommes peut-être en proie à céder à la colère. C'est la paix que Dieu veut nous voir exercer, pas le reste. Aussi, dans les temps où parfois même entre frères et sœurs, nous ne nous accordons pas, nous ne sommes pas d'accord, nous ne nous comprenons peut-être même plus. Il nous faut alors, non pas entrer en colère, mais implorer l'aide de Dieu, déjà au plus profond de notre cœur. Si nous commençons à sentir cette rage qui arrive, ou cette envie peut-être de dire quelque chose qui va blesser, implorons l'aide de Dieu, implorons la sagesse de son esprit pour qu'il nous rende plus semblables à son Fils, qui lui, rappelez-vous, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce moment historique de la Pâque, lui n'a pas réagi, tellement perturbant. Il n'a pas réagi, d'ailleurs ça a énervé tout le monde autour de lui. Bizarrement, non, pas du tout. Mais Jésus, lui, n'a pas réagi ni aux insultes, ni aux accusations mensongères. Il n'a pas réagi aux crachats. Et d'ailleurs, même, on lui a demandé de réagir quand on l'a frappé. « Sais-tu qui je suis ?» ou « Je ne sais plus quelle est la parole. » Ils l'ont provoqué jusqu'au bout. Et lui a montré ce qu'est être justement le Fils de Dieu. Nous sommes aussi ses enfants. Le chemin est dur. Mais le Seigneur, par son esprit, veut nous inviter à grandir sur cette voie-là. Et Jésus nous l'a montré dans la situation certainement la plus extrême. Il allait être condamné à mort. Il était condamné à mort. Il le savait même avant. Et il n'a pas réagi. Oui, que ce matin, l'invitation et l'exhortation de Jacques, et je reprends le tout premier verset de notre passage, parce que pour moi il est clé, à écouter, à être lent avant de prendre la parole, fasse chemin dans les profondeurs de notre âme. C'est cela que nous avons besoin d'entendre encore certainement pour chacun d'entre nous, en fonction de nos contextes, dans les lieux, les moments, les situations dans lesquelles nous, parfois nous cédons à la colère ou à des paroles qui vont faire mal et déshonorer Dieu, ne feront plus de nous un témoin de sa grâce et de son amour. Oui, je le répète, mais Jacques nous invite à écouter, même si l'autre nous déplaît, même si l'autre, quelque part, commence à avoir des paroles qui nous déplaisent et vont nous blesser. Il ne s'agit pas de l'écouter pour essayer de le justifier, rien ne dit cela. À être lent avant de prendre la parole. Et dans cette lenteur, c'est peut-être le moment de s'en remettre à Dieu, de venir nous tourner vers lui en disant « Seigneur, là tu vois, je vais réagir. Garde-moi de le faire s'il te plaît. Je me connais. » Plus encore, implorons, et c'est vraiment là-dessus que je reviens pour conclure, implorons la guérison de nos cœurs meurtris pour que nos colères, nos paroles dures ou médisantes ne soient, je l'espère, plus jamais dirigées vers quiconque. J'ai du chemin à faire. Je vous l'ai dit, ce matin, j'ai encore gaffé. Ma fatigue n'excuse rien. Je suis fatigué parce que malade, mais ma fatigue n'excuse rien. Ce n'est pas un prétexte pour me mettre en colère. Au contraire, elle devrait me mettre en garde. Car dans ces moments-là, je sais que je cède plus facilement à cela. Et Dieu m'apprend à travers cela. Ce sont des épreuves, même si parfois j'entre en tentation. Oui. Et je finis sur cette dernière exhortation et nous allons pouvoir ensemble prier. Mais que nous apprenions à nous en remettre à lui et à lui seul. Aujourd'hui comme demain. Même pour une chambre mal rangée et qui nous empêche de traverser pour aller ranger deux, trois choses. Je dois aussi, moi, par exemple, apprendre à m'en remettre à lui dans ces moments-là, même si ça paraît si bête, si anodin, si tout petit. Parce que c'est mon témoignage devant, pour moi, mes enfants ce matin, pour chacun d'entre nous, dans toutes circonstances, et y compris, et peut-être plus encore, vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur. Car une église qui, quelque part, entre en crise, se met en colère en son sein, et peut-être le plus mauvais des témoignages qu'elle va donner au monde, surtout quand elle se divise profondément. C'est notre témoignage qui est en jeu, individuellement et collectivement. Nous avons encore du chemin à faire, mais appuyons-nous sur Dieu, et faisons-le dès maintenant. Inclinons-nous, inclinons-nous. Et pour ceux qui le souhaitent, prenons le temps encore de prier un instant. Seigneur, je veux, oui, te remettre chacun d'entre nous. Car il est certain, comme nous l'adressait Jacques, et nous l'adresse encore aujourd'hui, nous avons du chemin à faire. Afin de te remettre toutes choses, de te remettre nos douleurs, nos souffrances, de celles qui parfois nous poussent à crier, Seigneur, donne-nous d'apprendre à crier vers toi uniquement. Si la rage est présente au plus profond d'entre nous, de pouvoir la dire et de l'adresser seulement à toi, peu importe nos mots. Car Seigneur, nous savons que toi, tu sauras entendre ce qui est vrai, et tu sauras enlever aussi ce qui peut-être n'était pas nécessaire, et tu sauras nous répondre plus encore, nous rassasier aussi de cette justice dont nous avons soif. Tu sauras aussi affiner dans notre cœur ce qui est ta justice et non pas la nôtre. Seigneur, oui, nous sommes tes enfants et nous avons encore tant à apprendre. Aussi, par ton esprit, fais-nous grandir. Fais venir en nous ta sagesse. Donne-nous d'apprendre aussi à nous faire lents dans nos paroles, à savoir écouter, à savoir ne pas réagir pour diviser, mais à savoir aussi avoir ce geste qui, parfois, quand cet autre qui est en face, que je le connaisse ou non, que je l'aime ou peut-être pas encore, je puisse savoir au contraire, là où il y a peut-être inimitié, avoir une parole d'amour, une parole d'apaisement. Que là où il y a peut-être violence, je puisse avoir un geste de paix ou une parole qui apaise. Oui Seigneur, nous avons encore besoin, chacun, mais aussi ensemble, en tant qu'Église, de grandir selon ta volonté, afin de t'être plus semblable, afin de porter un témoignage plus véridique encore, et de transpirer de ton amour et de ta paix autour de nous. Seigneur, oui, que au sein de cette Église, nous puissions grandir encore sur ce chemin-là auquel tu nous invites, notamment aujourd'hui, non seulement, mais demain encore, bien sûr. Notamment que dans ce qui nous anime, dans ce que nous voulons partager, dans ce que nous voulons regarder et faire avec toi, nous puissions aussi le faire dans cette paix. Et Seigneur, je veux te remettre encore cette journée, ce temps à venir, que dans les échanges qui viendront, dans ces paroles, dans ces réflexions, que ce soit ta paix, que ce soit ta sagesse qui puisse animer chacun. Que l'écoute soit là et que la lenteur au fond des cœurs, avant de parler, soit vraiment aussi le moteur de la réflexion, de l'envie aussi de vouloir te glorifier. Oui, Seigneur, apprends-nous à être lents. Lent comme toi tu l'es vis-à-vis de nous dans ta colère. Car seule ta colère est juste et la nôtre ne le sera pas. Mais merci Seigneur parce que toi-même, tu l'es demeuré et tu le demeures. Parce que tu nous aimes et tu nous aimes parfaitement. Seigneur, oui, tout simplement, apprends-nous, comme ton Fils, à nous aimer les uns et les autres plus parfaitement encore. Amen.
Merci Emmanuel pour la parole de Dieu, qu'elle soit bénie. Je vais inviter Gabriel pour les annonces.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a effectivement encore un petit peu de travail. Hein. Chacun selon ses travers. Cet après-midi, donc à partir de 14h30, comme nous l'a précisé tout à l'heure Nicolas, il y a une assemblée d'église. Il y a la possibilité évidemment de partager un repas fraternel en bas. Les tables sont, je crois, déjà prêtes, donc n'hésitez pas à amener votre repas et le partager avec les uns et les autres. Et si toutefois vous n'avez rien prévu et que vous êtes dépourvu, il y a juste en face de l'église un magasin où vous pourrez trouver de quoi manger. Samedi prochain, donc ça vous a déjà été annoncé un certain nombre de fois, il y a encore de la place. C'est donc un séminaire pour couples sur toute la journée, donc à partir de 9h, ici même. Si donc vous êtes en couple, qu'il soit déjà, je ne sais pas si le mot consommé est bienvenu, mais si vous vivez en étant marié, ou alors si vous avez vraiment un projet, si vous êtes fiancé, si que vous avez vraiment pour projet ferme de vivre une vie de couple, avec un conjoint, vous pouvez vous y inscrire. C'est, je pense, vraiment une bonne occasion de balayer un certain nombre de points où parfois on n'a pas l'occasion, on est dans notre vie, on a du mal à prendre un peu de hauteur parfois, et vivre ce genre d'événement peut nous aider à réaliser un certain nombre de choses utiles à la vie de couple, à l'enrichissement de la vie de couple. Donc il n'y a, il me semble-t-il, plus de bulletin d'inscription dans l'entrée. En revanche, sur la porte, il y a les affiches recto verso. Vous pouvez vous référer à ces affiches pour avoir toutes les informations. Alors, vous n'en portez pas à la porte pour avoir les informations chez vous, mais vous pouvez effectivement vous reporter à cette affiche pour vous inscrire. Donc, c'est samedi prochain. Donc, ne tardez pas si vous souhaitez vous inscrire à cet événement. Dimanche prochain à 15h15, en fait, non, l'événement est en fait un peu plus tard, l'événement est à 16h. Mais la salle Vazerelli n'est pas non plus infinie. Toutes les chrétiennes de la ville d'Antony sont invitées. Il serait donc bon d'arriver avec un petit peu d'avance si vous souhaitez avoir de la place. 15h15, effectivement, trois quarts d'heure en avance, c'est un délai raisonnable. Et il y a déjà eu un appel, mais je le réitère, hein, pour l'accueil. En fait, les organisateurs ont besoin de personnes qui s'inscrivent dans cette notion de service. Vous avez effectivement travaillé à l'accueil de cet événement. Donc, c'est Julien Wolf, dont vous voyez là le mail en dessous. Et puis donc dans deux semaines, c'est ça, il y a l'Assemblée générale extraordinaire dont vous a parlé Nicolas, donc je ne réitérerai pas d'informations autres que celles que vous avez été données précédemment. Il y a deux choses en plus. Ah oui, donc les événements de fin d'année, pardon, c'est les samedis 14 pour la fête de Noël, ici même à 18h. Donc c'est la fête où en fait les enfants et les adultes participent à un événement festif autour de Noël, bien évidemment. Pour l'Église, mais également pour les personnes de l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous a mis en fait les dates bien en avance, que vous puissiez déjà réserver dans vos plannings, dans vos agendas, ces créneaux-là, mais que vous puissiez aussi, pourquoi pas, penser à une personne à inviter, une personne qui ne connaît pas Dieu. Et puis le dimanche 22, donc, c'est le repas de Noël, qui se fait habituellement dans la salle du Mont-Blanc, à 12h30, et vous avez à ce sujet en fait des feuilles d'inscription. Qui seront disponibles à l'entrée sur la table. Alors il y a déjà les inscriptions où on peut dire combien on sera, parce qu'il s'agit quand même d'organiser, de savoir combien de tables on doit installer, mais également des feuilles d'inscription pour les services. Nettoyage et rangement, vaisselle, débarrasser les tables, service de repas et mise en place. Vraiment, n'hésitez pas, je vous encourage beaucoup, Pauline a parlé de service tout à l'heure, je vous encourage vraiment beaucoup à vous inscrire sur ces différentes feuilles de service, ça facilitera grandement le travail de Germina qui est à l'organisation complète de ce moment, ça nous donne l'occasion d'exercer notre vie de chrétien par le service, ça en fait partie intégrante,